France Inter, le 7-9.
7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est journaliste au New York Times.
Bonjour Jody Cantor.
Oh, I'm honored to be with you.
Bonjour, c'est un honneur d'être ici. Bonjour de Brooklyn.
Merci d'être avec nous ce matin. Si je dis qu'il n'y aurait pas eu le mouvement MeToo sans vous et votre collègue du New York Times, Megan Twory, je n'exagère pas. Vous publiez aujourd'hui en France le récit haletant de vos mois d'enquête. Ça s'appelle « She Said », les dessous de l'enquête qui a révélé l'affaire Weinstein et fait exploser le mouvement MeToo. Votre livre a reçu le prix Pulitzer aux États-Unis. D'abord le titre « She Said » et on a gardé le titre « en anglais. Il n'a pas été traduit sur les livres en français. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer à travers ce titre ? She said.
Vous savez, le titre, il est très simple. She said en anglais, ça serait elle dit en français. Et dans ces deux petits mots, on a tout un univers de signifiants qui est présent. Ce sont des histoires que l'on ne va pas raconter parfois en tant que femme. Au cours de cette enquête, eh bien, il y a des personnes avec qui on a souhaité parler, les victimes de Weinstein en l'occurrence. Et juridiquement, elles n'avaient pas le droit de nous parler, même s'il s'agissait de leur vie personnelle. Et aussi comprendre pourquoi la femme va commencer à parler et comment est-ce que ceci nous affecte, nous, les autres également.
Effectivement, c'est le cœur du livre. Nous sommes le 5 octobre 2017, il y a 3 ans tout juste, et le New York Times se décide à publier votre enquête explosive autour des méthodes d'Harvey Weinstein pour contraindre des actrices, souvent jeunes, souvent pas encore connues, à se plier à ses désirs sexuels. Vous publiez des témoignages et des preuves à l'appui. Et ce qui marque d'abord, c'est ce que vous dites, c'est la peur des femmes, leur réticence à parler on the record, c'est-à-dire à visage découvert. Elles vous disent non, je peux pas, ça va nuire à ma carrière si je parle, il va me traîner dans la boue si je parle. Comment les avez-vous convaincues de parler ?
La raison pour laquelle Megan et moi-même voulions écrire ce livre, c'était justement pour vous emmener avec nous dans cette odyssée. C'est-à-dire que vous commencez au tout début, on commence à obtenir les premiers témoignages de la première actrice, elle ne veut pas parler. Et tous ces moments-là, jusqu'à la confrontation finale avec Harvey Weinstein dans les locaux du New York Times, nous les partageons avec vous. Alors les femmes ont parlé de différentes manières, il y a deux questions en réalité. Un, s'ouvrir, partager son histoire avec un journaliste en off dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, et c'est encore plus difficile, là, il faut décider de raconter son histoire à visage découvert. Cette fois-ci, partager avec le reste du monde quelque chose de très douloureux, très intime qu'on a vécu. Et je crois que nous avons montré aux femmes qu'elles n'étaient jamais seules, en fait, que ce qui les torturait dans leur intimité, eh bien, nous le partageons. Ça nous a été possible en utilisant, en fait, le journalisme d'investigation. On a fait un travail de détective, on a cherché des preuves, on a remonté tous les réseaux financiers, la manière dont Harvey Weinstein, il a fait pression sur les femmes pour qu'elles se taisent. Donc, les deux premières femmes, Laura Madden et l'actrice Ashley Judd, qui se sont décidées à parler, on leur a dit, voilà, on a des tonnes de preuves, donc ça ne sera pas votre parole contre celle de Weinstein. On a des preuves, et c'est comme cela qu'elles se sont décidées à parler, mais vous voyez, l'actrice Ashley Judd, par exemple, elle a risqué sa carrière, littéralement, donc vraiment, quel courage.
Vous racontez comment vous avez trouvé les preuves capitales, et notamment ces accords à l'amiable que concluait Harvey Weinstein devant les avocats et contre indemnité avec ses victimes pour étouffer leurs accusations. Évidemment, en lisant votre livre, on pense aux Hommes du Président, le livre de Carl Bernstein et Bob Woodward sur le Watergate. Et comme dans les Hommes du Président, il y a une gorge profonde. Chez vous, c'est Irwin Reiter, un vice-président exécutif de la compagnie de Weinstein, qui accepte de vous voir dans un bar de New York, qui s'absente à un moment pour aller aux toilettes en laissant délibérément un mémo confidentiel accablant ouvert sur son téléphone portable pour que vous puissiez le photographier. Racontez-nous cette scène, ce moment qui est ultra cinématographique.
Irwin Reiter a été vraiment la gorge profonde de toute cette affaire parce que c'est quelqu'un qui travaillait avec Weinstein depuis 30 ans, c'était son comptable, et il avait été épouvanté par le comportement de Weinstein, et sa crainte, c'était qu'une autre femme soit encore une fois agressée. Et il voulait s'y opposer, et donc il y avait ce document, c'était un mémo qui avait été rédigé par une jeune femme, Lauren O'Connor, quelques années auparavant. Elle décrivait en fait l'ambiance de harcèlement sexuel qui régnait au sein de l'entreprise. Et pour encourager, bien sûr, Erwin à me donner ce mémo, j'avais apporté d'autres informations. J'ai pris notamment l'histoire d'une des actrices, à savoir le peignoir, la chambre, la promesse d'un petit rôle, etc. Et je dis, lisez ceci. Ça, c'est l'histoire d'une actrice que vous avez vue très, très souvent à l'écran. Donc, il l'a lu et là, il a été bouleversé et perturbé. Et quelques minutes plus tard, je lui dis, est-ce que je pourrais regarder ce mémo-là dont on parlait? Et donc, à ce moment-là, il l'a mis sur son téléphone à l'écran. Il a posé son téléphone. Il m'a regardé et il m'a dit, je vais aller aux toilettes, et il a laissé son téléphone posé sur sa chaise. Je l'ai pris, je l'ai mis évidemment sur mes genoux et j'ai pris mon propre téléphone. Et alors là, vous savez, c'est le moment où on panique en se disant, pourvu que ça marche, que la techno ne me lâche pas. Donc là, très rapidement, j'ai fait une capture d'écran de ce mémo et quand il est revenu des toilettes, j'ai veillé à ce que tout soit en ordre, comme si rien ne s'était passé. Après, on s'est dit au revoir. Il est parti, là, je suis allée aux toilettes à mon tour pour faire passer, bien sûr, des copies de ce mémo à ma partenaire le plus vite possible, parce qu'il fallait, bien sûr, ne pas perdre ce document. Et ce qui était incroyable dans ce mémo, c'est que cette jeune femme, Lauren O'Connor, elle disait, il y a une ambiance généralisée de harcèlement sexuel dans cette entreprise. C'était vraiment sa manière de fonctionner, Harvey Weinstein.
Il y a tout ça, effectivement, que vous racontez, et c'est passionnant. C'est un formidable exposé aussi du réseau de complicité dont a bénéficié le producteur hollywoodien, son avocat qui a enterré les plaintes pendant 16 ans, et son frère Bob qui savait et qui ne parlait pas. Vous racontez aussi des personnages secondaires. Il y a toute votre enquête dans ce livre-là. Le lendemain de la publication de l'enquête, c'est un séisme. Le New York Times est submergé d'appels de femmes désireuses de rapporter des faits de harcèlement contre le producteur, au point que le journal a dû mobiliser une équipe pour les traiter. Vous parlez d'une rupture de digue. Ça a donné le mouvement MeToo, dont on parle encore aujourd'hui, 3 ans après. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous et votre collègue du New York Times qui avait écrit ces articles ?
Je peux vous dire qu'on ne s'y attendait absolument pas. Vous savez, on m'en a fait des leçons avec condescendance en me disant « Vous n'allez pas y arriver, puis de toute façon, même si vous y arrivez, ça n'intéresse personne. La promotion canapé, ça fait partie d'Hollywood. Tout le monde sait que de toute façon, Weinstein fait ça et tout le monde s'en fiche. » Maintenant, en regardant dans le rétroviseur, il est facile de dire aujourd'hui que de toute façon, ça allait se passer forcément, que c'était dit, que ça serait un phénomène global, y compris en France. Mais en réalité, rien de tout cela n'a été orchestré au préalable. Ça a été la résultante de décisions qui ont été prises par des femmes vraiment courageuses.
Dernière question, vous pensez vraiment que les choses ont changé pour les femmes 3 ans après votre enquête? Je veux dire pour toutes les femmes, pas seulement les actrices d'Hollywood. Pensez-vous vraiment qu'il y aura un avant et un après MeToo pour les femmes?
C'est un petit peu le paradoxe, c'est que tout a changé et rien n'a changé à la fois. Comment est-ce possible? D'un côté, les choses ont changé aux États-Unis, sans aucun doute, et en France aussi, hein, apparemment. Aux États-Unis, il y a des centaines d'hommes importants qui ont perdu leur place. Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire. Dans le même temps, si vous voulez, la législation n'a pas changé aux États-Unis. Tout ce qui protège contre le harcèlement sexuel n'a pas bougé au plan législatif pour l'instant. Donc, il faut aussi penser aux femmes qui sont les plus vulnérables, celles qui gagnent peu d'argent. Elles ne travaillent pas pour des entreprises prestigieuses, ces femmes-là. Vous pensez, par exemple, à une serveuse qui est confrontée à des mains baladeuses tous les jours. Qu'est-ce qui a vraiment changé ces 3 dernières années pour ces femmes-là? Ce n'est pas si évident que cela du tout.
On va terminer sur cette question sans réponse, effectivement. Merci beaucoup.
Je vous remercie vraiment pour vos très belles questions.
Merci, Jodie Cantor, d'avoir été avec nous. Le livre s'appelle She Said, les dessous de l'enquête qui a révélé l'affaire Weinstein et fait exploser le mouvement MeToo. C'est aux éditions Alizio. Merci et belle journée à vous.
Et merci à vous, Léa.